Allez, c'est parti, c'est nous, c'est dimanche matin, c'est 11h, l'autre radio, c'est
Sport Epic.
Epic, messieurs, là, on est heureux, on a froid, on est bien, mais dans ce studio, là, on retrouve un peu de chaleur, mon Lionel,
c'est
comment
cocoon,
on est, là.
C'est cocoon ici, c'est bien.
C'est cocoon, on est bien, on est beau, on est jeune. Évidemment, on a de l'invité, Lionel, on a de l'invité, et là, on est heureux, parce que, outre notre Fred qui va arriver dans 2 minutes, soi-disant bloqué dans les bouchons lavallois un dimanche matin, vous croirez qui vous voudrez, on a du lourd, on a de la grosse balle orange. On a du bon chant, attention, et on a le bénévole, peut-être le meilleur bénévole du département. On a monsieur Bertrand Collat. Salut Bertrand.
Bonsoir tout le monde, bonsoir les gars.
Bonjour.
Salut Bertrand. Alors, on n'exagère pas dans les superlatifs, parce que je peux vous dire que ce type-là, il est hyper actif dans son boulot, il est hyper actif dans ses activités, qu'elles soient syndicalistes ou autres, et en plus, il est hyper actif dans ce club de Bonchamp Basket. Bravo Bertrand. Moi, je t'ai vu déjà, c'était samedi soir dernier, c'était un repas, les fameux repas de club.
Ah bah d'accord.
Et tout s'est bien passé, je crois.
Très sportif. Hein.
Bon, déjà, ouais, t'en fais un petit peu trop là, cher Benoît. oui, on s'est vu samedi soir, parce qu'effectivement, ça fait partie de la vie d'un club aussi, des soirées,
exactement.
Des soirées conviviales. Ouais.
Exactement. Alors, parle-nous un petit peu de tout ça là, Bertrand, de ce club de Bonchamp. Bonchamp, on en est où au basket? Est-ce que c'est les glorieuses heures des années 90 ou 2000, quand est-ce que ça tournait bien? Est-ce qu'on est toujours bien? Est-ce qu'on vise plus haut? Comment on est là?
Alors, on est toujours très très bien. Alors, on n'a plus d'équipe. On avait une équipe en National 2 féminine à l'époque dont tu parles, mais je ne faisais pas partie du club à l'époque. Mais Bonchamp se porte très 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 bien. Une vraie dynamique en termes de licenciés. Nous avons à peu près 230-240 licenciés aujourd'hui. Donc, non, c'est un club qui tourne très très bien.
Ça vous fait peut-être le club numéro 1 basket du département? Comment vous êtes là? 240, ça paraît énorme.
Ah non, on n'est pas le premier. Hein. Il y a 2 ou 3 clubs. On est probablement le 4e club en nombre de licenciés en Mayenne.
D'accord. Ouais. Et là-dedans, dans tous ces licenciés, vous arrivez à faire toutes les catégories, que ce soit féminin ou masculin?
Oui. Alors, on a un projet qui fonctionne sur deux jambes. Hein. On a le club de l'ES Bonchamp Basket, hein, où on a une école de basket qui... hyper dynamique, hein. On a 70-80 licenciés entre les 7 ans, de 7 ans à 11 ans, hein, de U7 à U11, hein, comme on dit.
Oui, tout voilà. À fait.
Et puis ensuite, on a des équipes dans chaque catégorie jeune, de U13 à U18, et 4 équipes seniors. Donc, on a en tout 19 équipes au sein du club.
19 équipes,
ouais.
C'est
ouais,
énorme.
Toi, le président, Lionel, toi, ça doit te faire rêver, là.
Pas encore de section basketball, mais c'est vrai que c'est impressionnant, tout ce monde-là. Est-ce que les effectifs sont constants? C'est quelque chose qui varie d'une année à l'autre? On est dans quoi, là, au niveau de l'effectif? Parce que c'est très impressionnant.
Alors, en fait, au niveau des effectifs... Au niveau des effectifs, on est constant entre 220 et 240 depuis quelques années.
Énorme.
Et on avait fait un gros travail, voici à peu près 7-8 ans, de remonter un petit peu l'école de basket à Bonchamp.
C'est-à-dire, ça périclitait, c'était comment?
Alors, on avait une école de basket qui existait, et puis on a mis le paquet en termes de projets sportifs pour monter quelque chose avec les jeunes. Ouais. Et on a réussi en 2021 à être labellisé comme une école française de mini-basket. Avec
d'accord.
Les 2 étoiles. Alors ça, c'était un projet à long terme. Mais
et pour ça,
tu as
des critères
contents.
Bien précis.
Oui, un cahier des charges très lourd.
Ouais. Ah ouais.
Et qu'on a rempli. On a mis quelques mois, on va dire, peut-être même 2 ans à monter ce projet-là. Et là, on est en train de renouveler notre labellisation pour l'année prochaine.
Ok. Ah, donc, c'est d'année en année, il faut... Ouais.
Non, ça dure 3 ans.
D'accord.
Et là, on est en fin de labellisation. Donc, on est en train de renouveler la labellisation en ce moment-là. Ça fait partie du projet... pour l'année 2025.
Et les critères les plus durs de labellisation, c'est les encadrants, c'est la structure, c'est
alors
le budget.
Il y a beaucoup beaucoup de choses. Hein. Il va y avoir les encadrants, il va y avoir le nombre de joueurs déjà qu'on prend en charge, il va y avoir les structures du club, le projet du club, il va y avoir les entraînements, un cahier technique, un cahier pédagogique, comme on dit, pour rentrer effectivement dans le cahier des charges nous impose la Fédération française.
Ah ouais, il faut des super bénévoles comme toi pour se taper tout l'administratif, là ça doit pas être toujours très simple.
Alors là oui, mais alors on va y venir peut-être tout à l'heure, mais je suis pas tout seul.
Je suis
pas tout seul, il y a quand même une grosse équipe de bénévoles. Il y a un conseil d'administration qui est composé à peu près de 13 personnes. Et puis, on a fléché très clairement des gens sur l'école de mini-basket, par exemple. Aujourd'hui, c'est, je peux le citer, Stéphane Gillet qui s'occupe de l'école de mini-basket et qui mène tout ce travail-là, effectivement, pour pouvoir être renouvelé. Et puis, on y reviendra sur nos structures. On a aussi un salarié.
C'est du gros. Et évidemment, quand c'est gros, ça fait envie, ça crée aussi des petites tensions, j'imagine, dans les communes et tout ça. Comment ça se passe à Bonchamp, ces villes très sportives, Bonchamp? Mais mine de rien, il y a beau avoir des salles, il y a beau avoir, on voit plein de terrains de foot, des tennis et ainsi de suite. J'imagine, c'est comme un peu partout, ça bataille pour avoir les salles. C'est...
Alors, à Bonchamp, on a quand même des équipements sportifs. On peut pas se plaindre. Vraiment, tous les gens qui viennent à Bonchamp et qui voient nos installations, nous sur le basket, on a trois salles.
Ouais.
Enfin, on a deux salles principales plus une autre qu'on peut utiliser.
Mais t'as aussi la concurrence du hand qui est en train de revenir. T'as aussi la concurrence de tout ce qui est GRS.
Alors nous, on le voit pas en termes de concurrence. On le voit en termes de complémentarité. Évidemment. Tous ces sports. Parce qu'effectivement, la ville de Bonchamp offre. Enfin, l'ES Bonchamp, parce que c'est une omnisport. Une entente sportive, Bonchamp, exactement. Et effectivement, on essaye d'être complémentaires les uns les autres pour offrir à tous les jeunes la pratique d'un sport. Et puis, on essaye de s'entendre entre sections, effectivement, pour que tout le monde y trouve son compte.
Ouais.
Alors, effectivement, il y a des réunions par moment où il faut... entre guillemets, négocier un petit peu les créneaux de salle.
Les créneaux, et les fameux. Ouais.
On arrive à trouver un terrain d'entente pour que tout le monde s'y retrouve. Il n'y a pas de raison.
Et toi, donc, tu dis multiplication forcément des réunions dans ces cas-là. Alors si on laisse un peu de côté le club, un bénévole comme toi, Bertrand, forcément ça te fait tourner les clubs. Forcément, il y en a, ça existe, mais vous êtes quand même de la perle rare. Comment on arrive tout le temps à faire cette passion, à faire vivre cette passion, à se dire tout le temps, je vais y aller samedi, je vais y aller à la réunion, il y a vendredi soir. Il n'y a pas un moment de lassitude Vous attendez pas une certaine relève, vous attendez pas où tu étais bien dans ton truc et toi tu te dis de toute façon toute ma vie ça tournera autour de ça moi.
Alors c'est une passion. Le basket c'est une passion.
Ouais
moi,
mais
c'est
le
passion.
Basket c'est ta passion. Voilà. Après toutes les emmerdes administratives comme disait Fred et tout ça, je suis pas sûr que ça ce soit une passion pour tout le monde.
J'ai dit ça moi.
alors effectivement. Bon, ce qu'on dit souvent, il faut regarder un petit peu, on parle de nuages, des fois il y a des petits nuages qui arrivent le week-end, donc tous les week-ends c'est une nouvelle aventure, faut gérer les effectifs, qu'il y ait bien un coach sur chaque équipe, qu'il y ait bien les permanences de bénévoles qui soient là pour assurer les matchs, les arbitrages, les tables de marque, donc effectivement il y a tout un travail de fond derrière, mais c'est une organisation collective, on a Nathalie Georget qui est à la commission sportive, qui nous gère toutes nos permanences, on a Marie Bileux, je vais les citer, j'espère pouvoir tous les citer.
Ils méritent tous, t'inquiète pas.
Qui gère effectivement les plannings de match. On a un président qui est toujours là, qui est très très investi, David Mézières, dans son rôle. Tout le monde a sa place dans le club et tout le monde essaye de faire tourner le club tous les week-ends parce que ça peut être 11-12 matchs dans un week-end à organiser, ça veut dire 50 bénévoles, ça veut dire
exactement. Beaucoup sachant de monde que vous mobiliser, en basket en plus il vous faut du monde à la table de marque, il vous tombe du monde pour les stats, il faut du monde
un match c'est 5 bénévoles.
Ouais, 5, c'est énorme, 5 quoi, faut vraiment les trouver. Bravo à vous et
comme le nombre de joueurs.
Ouais, c'est ça. Je vois que tu connais les règles.
Un bénévole par joueur, c'est pas mal du tout. Bonchamp, on va où là? On avance, on vise haut ou on est très bien où on est là?
Alors, nous, on avance. On avance sur nos projets clubs, faire progresser les joueurs. Alors, on a Loïc Rovelli, notre salarié, qui s'occupe de toute la partie technique, sportive. Et l'objectif, c'est de faire progresser de U7, U11, U13, et puis pouvoir avoir des équipes compétitives au niveau départemental déjà.
Ouais.
Et puis, on a une équipe en région, en senior région. Voilà. Après, les objectifs sportifs, c'est de maintenir cette équipe, par exemple, senior garçon en région l'année prochaine. Hein. Là, on est un peu dans le dur en ce moment, mais il y a des signaux qui nous font dire qu'on peut que ça va aller mieux là dans les prochaines semaines. Donc voilà. Et après, sur les objectifs club en termes de résultats, bah, nous on avance avec les joueurs qu'on a et on essaye de proposer la meilleure solution et d'avoir une place pour tout le monde dans le club, à la fois pour ceux et celles qui pourraient jouer en régional par exemple, et puis pour ceux et celles qui veulent continuer la pratique du basket à leur niveau en départemental.
Ouais. Mais et après, on en parlait un petit peu tout à l'heure, donc on ne va pas rentrer dans le tactique parce que tu t'es un petit peu éloigné de tout ça, mais plus tu fais monter d'équipes en région et ainsi de suite, ben plus il te faut des gens compétents sur le jeu en lui-même, et ce n'est pas forcément évident non plus ça de trouver des personnes conséquentes.
Ouais. Alors effectivement, le leitmotiv un peu du club, c'est que tout le monde trouve sa place dans le club. On veut laisser personne au bord, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir jouer à son niveau. Et après, quand on veut des équipes, des équipes régionales, effectivement, là, il nous faut des entraîneurs qualifiés, formés, diplômés.
Oui.
Effectivement.
Donc basket, c'est pareil. Vous devez avoir alors pas le brevet d'État peut-être, mais en dessous.
Alors c'est BPGEPS.
BPGEPS, ouais.
Voilà, ou un DE, un diplôme d'État, pour les équipes nations.
Ouais, parce que c'est déjà pas simple de trouver les entraîneurs. En plus, maintenant, c'est vrai qu'on leur demande systématiquement des diplômes. Bon, ce qui pourrait paraître aussi normal, mais quand t'as personne pour encadrer. Ouais, mais Fred, quand t'as personne pour encadrer, franchement.
Non, mais ça fait partie de la structuration d'un club. C'est ça qui est difficile et c'est aussi ça la belle aventure. C'est que il n'y a pas que le sportif, c'est vraiment la structure complète du club.
Parce que nous, on connaît plus le foot. Et c'est vrai que très souvent, il y a des clubs qui sont plombés dans leur montée et haute parce qu'il manque un arbitre, parce qu'il manque un dirigeant, parce qu'il manque la section U15 dans le club et ainsi de suite. Et tu te dis, quand tu structures un club, il faut vraiment partir de la base.
Il faut penser à tout. Il faut les bénévoles, déjà, c'est la base. Hein. Et puis structurer, ça veut dire, on a un salarié plein temps. L'année prochaine, on va probablement réfléchir à un BPGEPS aussi. On a quelqu'un, on a Arthur Zocchetti là, qui est à la com.
Ouais.
Et on a
C'est vrai que ça, c'est de plus en plus important aussi.
Alors, il est spécifiquement fléché à la com, Facebook, Insta, le site, et puis le sponsoring aussi, qui est aussi une autre partie du club, parce qu'effectivement, tout ça se finance, et il faut trouver les financements. Et pour les joueuses, alors on a aussi un projet, on est aussi dans une entente. Dans une entente à trois clubs avec l'US Laval Basket, avec Saint-Berthevin et Bonchamp, donc sur un projet féminin là, de U13 jusqu'à senior.
On en a parlé tout à l'heure, c'était Emilien qui était venu nous en parler l'an passé et tout qui dirige un petit peu tout ça, j'imagine qu'il est pas tout seul évidemment, mais il fait un gros boulot là-dessus. Comment il va notre département? Comment il va le 53 dans le basket?
Alors le département en termes de basket, on est un petit département en nombre de licenciés, comparativement au Pays de la Loire. Hein.
Oui, mais nous, on est un petit département aussi déjà.
Voilà, on est un petit département, de mémoire je crois qu'on a à peu près 3900 licenciés en basket en Mayenne, avec deux, trois divisions départementales par catégorie.
Ouais.
Voilà, après, chaque club essaye de se structurer justement pour faire progresser le basket mayennais.
Ouais.
Et ça passe effectivement par former des encadrants pour faire progresser tous les jeunes. Et je crois que tous les clubs aujourd'hui essaient d'être dans une dynamique de former des encadrants.
Ouais.
Alors ça peut être, pas forcément des BPGEPS ou des DE, hein, ça peut être aussi des brevets fédéraux jeunes, des brevets fédéraux enfants, ça existe, hein. Pour essayer d'encadrer au mieux nos jeunes et les faire progresser, quoi.
Parce que c'est vrai qu'on aurait dû avoir Monsieur Brizard il y a 15 jours avec nous, arbitre international et évidemment mayennais. Bon, malheureusement, il est repris par les compètes, donc on espère l'avoir plus tard. Mais quand on parle de... Alors nous, je le redis, nous, on est plus footeux. Quand on regarde un arbitre de foot, moi, ça me paraît relativement simple à faire. Quand je regarde un arbitre de basket, je ne comprends pas. Là, il y a les moitiés des choses qu'il fait, je ne comprends absolument pas ce qui se passe, comme ça peut être le cas en handball entre un passage en force et simplement une obstruction. Enfin, il y a des moments, moi je lâche alors que c'est un peu mon métier quand même. Ouais. Vas-y Fred.
C'est pour ça aussi déjà qu'à un certain niveau ils sont deux sur le terrain. Donc déjà, ça permet déjà de séparer les et puis d'avoir un œil plus aguerri. Après, c'est une question d'habitude, d'interprétation.
Ouais, certainement, mais c'est bravo à tous les jeunes qui se lancent parce que c'est
alors,
c'est
fort.
Alors,
on a aussi une école d'arbitrage. Hein.
Ah ouais.
Une école, carrément.
Ouais, une commission des officiels. Alors là, c'est Gwendoline Noblet, nous, dans le club, qui gère cette partie-là.
D'accord.
Et effectivement, on forme aussi des jeunes arbitres. Et aussi avec l'aide du Pays Laval Basket, hein. C'est une école d'arbitrage commune aux trois clubs. Et effectivement, on forme maximum de jeunes à l'arbitrage. Et aussi pour faire comprendre aux jeunes que voilà, il y a aussi les notions de respect, les notions de voilà. Mettre des jeunes à l'arbitrage, ça leur permet aussi d'être un peu de l'autre côté, hein, et de voir un petit peu la difficulté par moment qu'il peut y avoir à arbitrer un match. Et donc à
Et quand on avait eu la responsable de l'arbitrage mayennais en hand, forcément, on faisait le petit comparatif avec l'ambiance exécrable qu'il peut y avoir dans le foot. Et on lui demandait, est-ce que le hand était mieux loti ? Il me disait, mais pas du tout, c'est la même guerre, c'est infernal, c'est infect. Et comme tu le dis, ça fait énormément de bien de passer de l'autre côté aussi du sifflet, parce qu'on se rend un petit peu compte que de ce qu'ils vivent, que c'est ces pauvres arbitres là par moment. Mais bon, Champ n'est pas comme ça, évidemment. Très respectueux.
Mais tu mets le doigt sur un truc quand même qui nous préoccupe tous, hein, et toutes dans les salles de basket tous les week-ends, c'est-à-dire lutter au maximum contre les incivilités.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Quand je vois, il y a un paquet de parents, quand ils voient leur gamin qui plonge alors qu'ils savent très bien qu'il y a strictement rien, ils vont ricaner, ils vont dire ah c'était très drôle, bien joué. Voilà, donc on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Moi je me retrouve parfois à des repas comme ça. T'as vu mon fils, il a plongé, il a eu son penalty. Mais putain, tu m'emmerdes là, parce que tu fous tout par terre là.
T'as un travail d'éducation des parents, des jeunes. Hein, on est formateurs. Et formatrice, il y a un travail d'éducation des parents et on travaille là-dessus. Le comité de basket 53 aussi prend en main cette question-là, vraiment, sur les incivilités. Hein, va envoyer par exemple un sondage à tous les clubs pour avoir le ressenti un peu des bénévoles, des dirigeants sur les terrains le week-end. Parce que, bon, assez fréquemment, globalement ça se passe bien, on va pas trop se plaindre, mais il y a de temps en temps des recadrages entre guillemets à faire pour que ça se passe bien sur les terrains de basket. Et bon, malheureusement on constate que c'est souvent les parents qu'il faut gérer, quoi. Voilà, ouais.
Mon gosse c'est Wemby, c'est bon, je vais passer à la caisse.
C'est ça, ouais.
Oui, je veux revenir un petit peu sur la dynamique du club. Est-ce qu'elle a bénéficié de l'effet JO, fameuse finale de notre équipe nationale. Ouais. Est-ce que effectivement, vous aussi, dans votre structure de Bonchamp, il y a eu une rentrée un petit peu chaude pour les inscriptions? Est-ce qu'on a été jusqu'à refuser des inscriptions à Bonchamp?
Alors, on refuse jamais les inscriptions.
jamais.
C'est un principe.
On essaye, en tout cas. Des fois, pour faire une équipe, c'est compliqué. Hein. Et des fois, on n'a pas assez de joueurs pour faire une équipe. On essaye toujours de trouver une solution. Des fois, il y a des petits loupés, des petits ratés. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que tout le monde ait sa place. Après, effectivement, l'effet JO. Alors, l'effet JO, en nombre de licenciés, pas forcément. Parce qu'en fait, tout le monde a bénéficié de l'effet JO. Donc à Bonchamp, il y a le tennis de table. Pas sans savoir que.
Il y a eu des têtes de gondole.
On a deux frères. Voilà, il y a eu le handball. Il y a le handball aussi à Bonchamp. Alors, ils ont été moins performants au JO.
Oui,
mais là,
ils
sont en train de se rattraper au mondial. Là,
ouais.
Voilà.
Ouais.
Et alors, le basket, ça a été extraordinaire. Hein, mais
extraordinaire.
Hommes et femmes.
De la folie.
Hommes et femmes.
À même, à un moment, y croire. Quoi.
Oui, les deux peuvent être champions olympiques.
Tout à fait. Bon, ça bascule du côté des meilleurs, mais ça peut.
Et Benoît, tu parlais de tête de gondole. Il y en a une très belle aussi pour notre équipe de France. Donc là aussi, c'est un effet très dynamisant.
Forcément.
On en sait aujourd'hui même.
Ah oui.
Oui, mon Fred.
Moi, c'est moi qui suis bon champion d'origine, donc j'ai connu voilà, l'essor du club.
Il arrive à ramener là, ce couvercle.
Ah, toujours facile. dès que tu as mis des bons shampoings, c'est plus simple. Moi, ce que je voulais savoir, c'est. Là, on parle en termes de licenciés, mais en termes du public bon shampoing.
Ouais.
Parce que moi, mon adolescence, le basket était hyper populaire. Il y avait il n'y avait pas de tête de gondole à l'époque, hein, parce que il y a 30 ans, il y avait déjà Hervé Dubuisson, mais c'était à peu près tout. Et donc, c'était l'époque, la folie Jordan, la NBA qui explosait
pour tous les
ados.
Oui, bon, là, ouais.
Et le basket, à mon chance, c'était une folie. Alors, les féminines jouaient en N3 à l'époque.
Donc N2. Hein.
Ouais, alors, moi, à mon époque, c'était N3, Anne Ménézgoy, enfin Anne Cormier qui était la meneuse. Voilà, Laetitia Planchet, tout ça, ça jouait. Laetitia Barret, excuse-moi.
C'est dingue parce que Anne Cormier, on l'avait reçu, mais en tant que tennis woman, superstar du département.
Mais elle faisait les deux à l'époque. Elle était 4-6 au tennis et c'était la meneuse de Bonchamp au basket. Donc, et il y avait un vrai engouement garçon-fille. Et c'était hyper populaire. Il y avait du public qui venait voir. Dès qu'il y avait un nouveau joueur, c'était. Voilà, à l'époque, l'entraîneur, c'était Olivier Leminor. Je ne sais pas si ça te parle.
Oui, tout ça, ça me parle. Alors, j'étais pas là, mais j'ai entendu parler. Et l'histoire du club m'a été transmise un petit peu.
Et c'était vraiment super populaire. Alors, c'était la montée aussi du handball, mais il y avait. Quand tu parles des salles, il y avait bien moins de salles. C'était plein en permanence et il y avait vraiment du public, quoi. Le public bon shampoing.
Parce que là, vous avez un public, là, Bertrand ?
C'est ça que je voulais savoir. Si ça restait dans cette ambiance-là ou si, comme quelquefois, c'est dilué aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres activités sportives, quoi.
Alors, compte tenu du niveau, alors maintenant on a une équipe garçon en région, une équipe fille en région, c'est plus la N2, alors je pense que la N3 attirait beaucoup de public. On a quand même du monde dans la salle, alors on a eu un petit stop avec le Covid, hein, mais bon ça...
Ouais.
Mais on a quand même du monde dans la salle sur les équipes seniors région, sur les équipes jeunes région, parce qu'on a des matchs U18, U15, enfin U15 cette année, U13 région à Bonchamp. On a du monde dans les salles sur ces matchs-là. Et on invite tout le monde à venir parce qu'effectivement on essaye aussi de fidéliser un public, on essaye de faire des petites animations pendant les matchs, on travaille, justement tu parlais tout à l'heure de l'entente entre les sections, il y a la section Jazzline
toi tu dis en anglais
Jazzline qui viennent faire des animations pendant les temps morts ou les mi-temps. Et ça fait partie aussi de l'entente entre les clubs, ça c'est super sympa.
Ouais.
Et avec c'est vachement apprécié par le public d'ailleurs.
Certainement, parce que ce qu'a produisent les Jazz Line par exemple, c'est du très fort. Et comme ça dépasse pas les 2 degrés en ce moment depuis 3 semaines, c'est vrai que les sports en salle, on le vend.
Ah bah ouais.
Messieurs, c'est pour ça, mon Lionel, qu'on ira faire du futsal.
Tout à l'heure.
Vous entraînez le dimanche après-midi.
Le dimanche après-midi, c'est tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? On parlait évidemment donc de cet extraterrestre. Si on laisse un petit peu, à moins que tu aies envie de rajouter quelque chose sur ton club, Bertrand,
c'est bien,
le moment de faire la promo.
Je vous invite tous à venir à Bonchamp et puis évidemment à venir voir les matchs.
Évidemment.
Au passage, il n'y a pas de souci.
Est-ce que tu peux juste dire pour un néophyte, est-ce qu'il y a un jour de la semaine où c'est les grands matchs, où ça peut être n'importe quel jour de la semaine, c'est le week-end, c'est...
Alors les matchs c'est le week-end. Hein,
Alors plutôt samedi, vendredi.
Samedi soir ou dimanche après-midi.
Dimanche après-midi.
Ouais, les matchs seniors région, c'est soit le samedi soir, soit le dimanche après-midi.
D'accord.
Alternativement entre les filles et les garçons, voilà.
Ok, vous serez bien, vous serez au chaud, il y aura de l'ambiance, comme tu disais tout à l'heure, avec des intermèdes en plus musicaux et artistiques pendant les...
Alors, pas à tous les matchs. Hein.
Pas à tous les matchs.
C'est un objectif.
Pas, ça, c'est bon.
Mais
ça.
Mais bon, si vous tombez sur bonsoir...
Vous avez plein de cartons, vous, en plus, donc comme ça. On parlait tout à l'heure de notre extraterrestre. Évidemment, alors on va faire comme tout le monde, hein, dans les superlatifs, dans tout ce que vous voulez, bien entendu. Mais nous, on va se demander plutôt si c'est pas dangereux d'en faire une superstar si jeune que ça. Quel âge il a, ce pauvre Wemby? Enfin, ce pauvre, on va pas le plaindre non plus.
Non, on va pas le plaindre. Moi, je dirais 21.
Ouais, c'est ça, 21.
Il arrive sur les coups de 21. Est-ce que c'est dangereux de mettre quelqu'un au rang de superstar à cet âge-là? Toi, tu fais nom de la tête, Fred, mais on en a quand même vu pas mal se casser la gueule parce que c'est dur à porter toute cette notoriété. Toi, non, ça te pose pas de soucis.
Bah...
Toi qui as été vedette très tôt.
Pareil, alors je peux te parler donc j'ai en connaissance de cause. Non, mais en moins grand au niveau taille. Non, tu sens que le gars, à la fois, il est super entouré, mais il est super prêt à ça. Parce que bon, effectivement, sa dimension physique a fait que très tôt il a été mis en avant.
T'as raison.
Et son parcours, il est ultra linéaire, c'est ça qui est assez chouette. Son parcours NBA, il est tombé dans la bonne équipe aussi, pour le où il y a une vraie filiation à une histoire avec des joueurs français. Il est bien encadré, ça progresse, donc la progression linéaire, le gars est top. Tu regardes les interviews, c'est toujours une bonne analyse, simple. Tu sens que le gars, malgré ses presque 2m30, il a bien les pieds sur terre. Ouais, donc, c'est assez chaud, tu le sens prêt, quoi.
Oui, j'ai entendu une star du basket américain, excusez-moi, j'ai pas le nom, mais qui disait, quand il dit j'ai rencontré Wembanyama, sans doute un des joueurs de basket le plus intelligent que j'ai rencontré de ma carrière. Ouais.
C'était un certain Michael J.
Non, il n'en a pas encore parlé, Michael J. Mais en plus, la construction de son équipe est vraiment bien, parce que là, ils ont recruté un meneur d'expérience pour le faire un peu plus briller et l'accompagner, et un gars intelligent sur le terrain. Donc tu sens que tout est fait bien. Il n'y a pas de.
Ça veut dire à ce moment-là qu'une star, ça se formate dès ses 10 ans pour lui faire comprendre que tu vas être une grande vedette et tu vas pouvoir accepter tout ce qu'on met sur toi là, en temps de pression médiatique et autres. Parce que si tu arrives de l'anonymat le plus total et qu'on te balance comme ça, superstar des États-Unis et ainsi de suite,
Je pense que lui, il n'a jamais été anonyme. Vu sa taille, il n'a jamais été anonyme. Puis c'est très linéaire dans les clubs dans lesquels il passait et le rôle qu'il a eu. T'as l'impression que... Enfin, c'est ça aussi qui est très très fort, parce qu'il est très jeune.
Ouais.
Et
Faut espérer que ça dérape pas comme un certain Mbappé.
Après, faut voir aussi que c'est un joueur absolument exceptionnel. Exceptionnel en termes de basket, on voit rarement ça. Enfin, on voit rarement un profil comme ça. C'est un gars qui fait 2m22, 23, qui peut jouer extérieur, qui shoot à 3 points, qui peut pénétrer, qui prend des rebonds, qui défend. Enfin, il fait tout. Après, il est très bien accompagné, il a la tête bien faite, tu le disais, effectivement. Et il a été aussi chapeauté par des entraîneurs français quand il était en France, hein, Vincent Collet. Il a eu aussi des...
Vincent Collet, qui est quasiment l'homonyme de
Bertrand. Un cousin éloigné, très très éloigné.
Alors, ces fameux précoces, messieurs, vas-y.
Voilà, je voulais finir là-dessus, mais ce qui est dingue, c'est
qui veut dire quand ça finit.
C'est qu'il a les mains, mais on va parler. Il est en France cette semaine. Je sais pas si vous avez vu, il y a une petite vidéo. Il était présent au match de foot de Paris.
Oui.
Et on le voit jongler avec ses pieds. Pour un gars qui est quasiment à 2,30 et il jongle mieux que nous avec ses pieds, les gars. C'est là aussi tu dis, le gars il a quelque chose.
Il a quelque chose. J'ai fait 3056 moi au pied.
Avec rebond aussi, toi.
Alors moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que le mec là, il revient des États-Unis, il arrive, il organise une chasse au trésor, machin. Il est invité au Parc des Princes. T'as l'impression que le match, heureusement, c'était un match exceptionnel, mais l'atout c'est Wembanyama. Pour moi c'est difficile, tout ça c'est trop difficile à gérer, mais c'est pas grave, puisqu'on va jouer, messieurs dames, aux gens précoces, un sport, un précoce, c'est toi qui démarre, Bertrand, la boxe s'il te plaît. À la boxe, putain, on en connaît un, les mecs, c'est tes années en plus, on est début 90, fin 80 plutôt.
Tu veux dire français ou mondial ?
Non, mondial, là. Le mec, il est jeune, il débarque et c'est la superstar de la boxe. Bon, Jérémy, t'as le droit
Tyson,
de jouer. Hein, si,
non, ça veut pas être
oui,
ça.
Dis pas oui, toi.
J'en connais qu'un.
Mais je cherchais français.
Jeune, oui, peut-être, mais c'est
Il est champion du monde de 19 ans, Tyson.
Exactement. Et en boxe, c'est monstrueux. Parce qu'en plus, il faut les promoteurs pour t'amener là-haut. Bon, pour l'instant, vous êtes super fort. Merci. Je vous annonce...
Je l'ai eu.
Je vous annonce du tennis féminin, monsieur.
Martina Hingis,
extra. Ça doit être Open d'Australie peut-être à 16 ans.
Première victoire, 16 ans.
Capriati aussi.
Capriati, jeune aussi.
Aussi.
Elle fait pas la même carrière quand
même. Non, elle fait pas. Ouais, et puis Hingis, elle gagne les petits as de Tarbes à 11 et 12 ans, quoi. Donc elle a 3 ans de moins que les autres, elle gagne déjà, elle gagne 2 années de suite.
Grande classe. Ouais. T'as le droit de jouer hein, aussi, mon Lionel, évidemment. Je suis le football, bien sûr, le football. Attention, vous trompez
Paganini.
Pas.
Paganini. Hein. Bah ouais, Laurent Paganini. Non,
parce que Paganini, on peut pas dire qu'il ait fait carrière. Derrière, si vous faites jeune, et puis derrière, il y a la carrière. On y va.
Bah
Mbappé.
Non mais vous avez droit à l'international, la vedette là.
Pelé
évidemment. Mais
champion du monde à 17 ans.
Ce petit air condescendant là-bas, Pelé.
C'est
Pelé. On parle de ça.
Il y a aussi les deux Espagnols là qui étaient.
Yamal,
oui.
Qui est très fort aussi. Mais c'est vrai, Pelé, champion du monde à 17.
C'est du lourd aussi. C'est du très très lourd. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'arrive plus à me lire. J'ai du basket masculin, tout simplement. Basket masculin.
Alors il y a Rigaudo.
Dans mon truc, moi, c'était américain encore. Superstar aussi.
Kobe Bryant.
C'est Kobe Bryant.
C'est
17 ans, ça passe directement de lycée.
Ouais, ça fait pas la fac, ouais.
À NBA. Par contre, ça fait une petite carrière, quoi.
Ouais, pas mal. Ouais. Mais qui finit un peu durement, quoi.
Évidemment, je suis la gymnastique. Alors, on en connaît
Nadia Comaneci.
Donc ça tombe bien, c'est Nadia Comaneci.
1976.
Qui avait 6 ans et demi, je crois.
Ouais, c'est ça. Mais tu pourrais nous donner une tennis quand même.
Est-ce que je peux faire une dédicace sur Nadia Comaneci?
Tu nous intéresses.
Une dédicace à Stéphane Baon, il comprendra.
Il comprendra. Voilà. Bon, maintenant il faut qu'il nous écoute, c'est obligatoire. C'est toi, mon frère.
Tennis chez les hommes, Michael Chang.
Quel âge il avait, Michael Chang?
17 ans, plus jeune que Nadal hein, pour gagner Roland Garros.
Ouais.
Et il en gagnera qu'un.
Ouais.
Il gagne
ouais.
pas d'autres majeurs.
Hein. Non, et il fait pas.
Il fait des finales. S'il fait des finales, il fait finale Roland Garros, finale à l'Open d'Australie et tout, mais il gagne pas d'autres grands chelems.
Parce que maintenant, avec l'avènement des sports comme le skateboard, on voit qu'elles sont championnes olympiques, les petites, là, elles ont 14 ans aussi. Ouais. Bah, tu dis, mais tu démarres à quel âge en fait? Si t'es championne olympique à 14 ans, t'as foutu sur un skate à 1 an, à 2 ans. Ouais. Parce que moi, tout ça, ça met pas de sa histoire d'âge. Aller taper du très très lourd comme ça, dès tes 16 ans.
Et si je dis Martin en ski nautique, c'était
très jeune.
Mais il n'a pas fini encore, lui.
Jenny Longo.
On fait notre petite coupure musicale. Bertrand, tu restes avec nous si tu veux. Tu n'es pas obligé. Derrière, je t'annonce qu'on a le dernier homme debout au téléphone avec notre Alex, spécialiste et bien sûr, de la Ligue des Champions. Messieurs, est-ce qu'on a déjà hâte d'être après la coupure là?
Tout de suite. Allez.
Allez, à tout de suite, messieurs là.
We'll be right back.
reparti pour Sport Épique. On va quitter Bertrand. Bertrand qui est appelé encore en réunion, en machin. Il doit
c'est
encore
ça,
s'occuper de son
dossier.
Il n'arrête pas, ce mec. Il est... Et on est dimanche matin, il doit quand même s'y coller. Hein. C'est pas les
chrono,
repas en famille, lui. Il n'a pas ça. Lui. Ouais. Tu l'as. Il est toujours ouvert, Bertrand.
Bon, bah, je vous laisse, les gars. Et bonne émission. Et merci pour l'accueil.
Merci.
Salut.
Merci bien. On
bon
mettra
courage.
Tout ce lien, évidemment, pour le club de Bonchamp et pour tous les clubs de basket de la Mayenne, puisque tu es passionnant, Bertrand, bien entendu. Salut à toi et bravo à ton club. On enchaîne avec Alex. Alex, t'es avec nous, mon ami ?
Oui, bonsoir.
Oh. Ah, Alex, bonsoir. Alors là, on touche un monstre, les gars. On touche.
Ouais.
Parce que nous, on connaît Lucien Drault, notre informaticien.
Oui, que j'ai vu cette semaine.
Le mec revient d'un homme debout. Oui. Et Alex, toi aussi, tu étais à cet homme debout. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept ? C'est juste extraordinaire, ce truc.
Ah, le dernier homme de vous.
Oui, ouais, le dernier.
C'est ça qui est important, c'est surtout le dernier.
Oui.
Alors, comment on vous fait tomber par terre ? Comment on reste le dernier, alors ?
Le concept, il est assez simple. C'est du trail. C'est une petite boucle de 7,8 km
ouais.
et 280 mètres de dénivelé positif.
Ah, quand même.
Donc rien d'extraordinaire sur le papier.
Bah si, parce que sur 7,8 km...
280 mètres.
Alors, voilà, la difficulté, c'est surtout que, bah, en fait, on a une heure pour faire la boucle, et le total, ça dure 24 heures, donc pour en faire le plus possible, et à chaque fois, on a une heure pour terminer la boucle.
D'accord, donc le concept, par exemple, c'est si t'arrives en 45 minutes, t'as un quart d'heure pour te reposer avant de repartir.
Ah, t'es waouh.
Exactement.
Hein, bah, non, là, j'explique à nos auditeurs.
Donc c'est... dans une heure, il y aurait 60 minutes.
Non, mais c'est aussi mon rôle, Fred, d'expliquer, d'être pédagogue. C'est tout moi, ça.
Vulgariser, bon, c'est bien.
Toi, mon ami Alex, combien t'as tenu, là ? Toi qui misais, tu voulais tenir 16 ou 17 heures ?
Dans mes rêves les plus fous, non, j'avais un objectif à 10, pour être très honnête, et comme c'était quand même ma première fois,
ouais.
Plein de choses qui se sont passées,
ouais.
J'ai validé 6 boucles, mais j'en ai fait 7 en réalité, mais j'en ai validé que 6, c'est-à-dire que la dernière, je suis arrivé en 1h47.
Ah ouais, donc là c'est pas drôle. Donc 45 secondes, t'es bien.
Et là on
donc...
t'arrache ton dossard, quoi.
Ah tu dégages.
Mais avec la fatigue, on est aussi un peu content de terminer quand même. Hein. Faut pas se le cacher.
Ouais, certainement. Et là, tu vois, si on écoute les choses de, sans connaître ni autre, on se dit, bon ben, 6 boucles, bon ben ok, ben, moi aussi je peux le faire, sauf qu'il faut faire 6 fois 7800. Hein, donc vous êtes carrément quasiment à 50 bornes déjà. Dans le
48.
Ouais, vous êtes à 48 km. Donc
46 800.
Bravo,
bon.
bravo à toi évidemment Alex. Ça récupère, t'es comment là, tes jambes, elles existent toujours ou c'est dur toujours?
Oh, là ça va. Je retourne courir demain. Mais après au-delà de cet effort, il y a quand même sur cette édition en Vendée, il y a quand même eu 2 finishers, donc 2 personnes qui ont fait les 24 boucles.
Oh là là là.
C'est plus de 180 km et
ah ouais. C'est 180 bornes.
Ah bah autant.
Bah oui, tu fais 8 fois 24 quoi.
Voilà, c'est ça, fois 8.
Qu'est-ce que t'es.
On passera à la vulgarisation pour le calcul mathématique qui est dans 15 jours. Hein.
Et le vainqueur Fred, je crois. Alex, excuse-moi. Je crois que c'est un de notre cher 53, non ?
Oui, alors le co-vainqueur cette édition-là, en fait, il avait déjà remporté les 2 dernières éditions. Et il fait encore finisher, donc il fait encore le 24e tour.
Incroyable.
Donc, ils étaient 2, et oui, c'est quelqu'un de la Mayenne qui s'appelle Johan Nézan.
C'est très très fort. Excuse-moi, Pythagore, qu'est-ce que tu nous as dit sur ces 180 bornes, Fred ?
Les 24.
C'est combien le tout, Alex ? En kilométrage, là ? Si tu fais les 24 heures ?
8 x 2, 16, 8 x 4, 32, ça fait 192, donc un peu moins que ça. Ouais, 180, on va dire 5 ou un truc quelque chose comme ça.
185, ouais. Très très costaud. Et tu te rends compte, il y a quand même 2 mecs qui finissent, quoi. Il y a 2 fadas qui sont capables de faire ça. Donc, très très fort. Très très fort. Alex, toi, ça te dit, bon bah moi c'est terminé, plus jamais de ma vie, ou t'as qu'une envie, c'est d'y retourner et faire 8 ou 9 tours ?
Ah, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner.
Ah ouais, tu fais partie de ces gens-là.
Ouais, mais au-delà de ça, il y a une ambiance de fou.
Ah oui?
C'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'il y a du public partout. Il y avait une grosse montée. Tout le monde était dans la montée. Ça faisait un peu comme les cols du Tour de France.
Ah, carrément!
Où, en fait, tu passes, t'as les gens qui sont là en train de t'applaudir. Ça te donne une patate. T'as plus de jambes, mais ça te donne une patate d'enfer.
Ah ouais, ouais, ouais.
Est-ce qu'on est arrosé?
Et pour avoir une idée de l'organisation sur 24 heures, le départ, c'est à quelle heure?
Le départ, alors la première boucle, la particularité, c'est qu'elle fait 1h10, on a 1h10, donc le premier départ est à 11h50.
11h50, donc on va dire voilà. Midi, quoi. Donc c'est en gros, l'objectif, c'est du midi-midi. Donc il y a pour les sérieux, ils vont passer une grande partie de leur course dans la nuit, quoi.
Voilà, exactement.
Ouais. Ouais.
Exactement, sauf que à partir du 10-12e tour, alors il y a 300 personnes hein, qui sont inscrites. C'est limité à 300 et quelques personnes. Et à partir du 10, je crois que c'est à partir du 10 ou 12e, il en restait déjà plus de 50.
Bah oui,
tu m'étonnes.
Pour donner un ordre d'idée, moi qui finis, qui valide mon 6e tour et qui part sur le 7e, je fais 137e.
Ouais.
Je suis déjà un peu moins de la moitié, alors qu'on est quasiment qu'au début. Enfin, si on prend les 24 heures, on est quasiment qu'au début.
Ah ouais,
et tu parlais d'ambiance. La nuit aussi, il y avait ce même public. Alors, tiens,
c'est ce que je veux savoir. Ouais, si t'es resté les 24 heures, toi et...
Alors moi, je suis pas resté les 24 heures. La nuit, en fait, on boucle dans un espace naturel protégé. Donc, il n'y a personne sur le parcours la nuit.
Ah,
les gars qui continuent sont vraiment tout seuls sur le
parcours.
Et t'as pas le droit à la frontale pour pas gêner la biodiversité.
Ok, mec, on n'a pas retrouvé. Il est toujours perdu, mais bon.
Ça fait partie des choses. Effectivement, il n'y a que les coureurs qui ont le droit d'avoir leur frontale. Quand ça commence à baisser un peu en luminosité, plus personne n'a le droit d'aller sur le parcours et surtout pas de lumière. Et après, non, dans la salle, moi, je suis resté jusqu'à, du coup, jusqu'à 8-9 heures. Il y avait encore énormément de monde dans la salle et aux alentours de la salle
pour
les départs, quoi.
Ambiance.
Et c'est un plateau national ou régional?
Tout le monde, enfin, n'importe qui peut s'inscrire, en fait.
Oui, mais la réalité, c'est quoi? C'est national ou régional?
C'est plutôt régional.
T'as assez de fada, alors.
Et t'as eu un retour sur la stratégie des meilleurs, là, savoir si est-ce que les gars, par exemple, se disent, bah tiens, il y a 7 bornes 800, je vais faire 4 bornes, 5 bornes à un bon rythme, et par contre, je fais les deux derniers en marchant pour me gérer. Comment ça se passe? Il y a des stratégies?
Globalement, c'est si on regarde leur temps, en fait, c'est des gens qui sont très très réguliers, c'est des métronomes. Et en gros, ça arrive tout le temps sur l'heure, ils bouclent tout le temps en 57-58 minutes.
Ah ouais,
c'est des malins, quoi, ça se gère.
C'est des malins.
Ouais, mais attends, après.
Dans la gestion, quoi.
Après, faut le temps de manger un peu, faut le temps de boire, faut
c'est
le temps
vrai,
de. Comment ils gèrent, alors, après?
À 7 à l'heure, tu peux manger en marchant, quoi.
Ouais.
C'est ça, je pense. Alors j'ai pas discuté avec eux, mais je pense que dans la stratégie, ils gèrent ça vraiment comme un ultra avec une alimentation régulière sur le parcours et puis après sur les 2-3 minutes qu'ils ont, ils mangent peut-être un peu plus consistant, mais ils gèrent, ils sont vraiment dans la gestion tout au long, quoi.
C'est vraiment une histoire à dormir debout aussi.
Moi je m'étais renseigné un petit peu parce qu'il y a eu les championnats du monde des 24 heures il y a pas longtemps sur course, et c'est une Française qui est championne du monde pour la deuxième fois consécutive, et en fait je m'étais intéressé justement à la problématique de comment s'alimenter et tout, et elle disait en fait elle s'alimente toutes les 25 minutes.
Ah ouais,
elle prend un truc toutes les 25 minutes.
Ouais.
Et donc en fait effectivement elle prend petite quantité, quoi, mais vraiment c'est super régulier.
D'accord.
Et tout, justement pour la problématique, parce que c'est ça qui est le plus dur hein, sur la durée, c'est l'alimentation, quoi.
Et c'est là que tu te loupes un peu, toi, je crois, Alex, d'après ce qu'on se disait l'autre jour. Toi, tu prenais un cassoulet à chaque fois ou une petite choucroute, et sur le quart d'heure là, c'est peut-être mal vu, du coup.
C'est pas terrible hein, ça un peu, et ça empêche de courir.
Et sur des temps comme ça, est-ce qu'il y a des cas de fringales qui sont obligés d'abandonner, des choses comme ça?
Il y en a forcément. Après, ça, je pense que c'est aussi plus on fait des courses comme ça, plus on s'habitue. Enfin, même si on s'habitue jamais, parce que ça peut toujours arriver une fringale ou oublier de s'alimenter, la lucidité aussi. Hein.
Ouais.
Et sur les 300 et quelques là, qui étaient là, est-ce que tu as pu constater quelques vraiment touristes qui venaient là et qui ont fait peut-être un tour ou deux?
je pense pas qu'il y ait vraiment de touristes. Chacun vient avec ses objectifs, en fait. Ouais. Il n'y a pas vraiment de touristes. Après, il y a des gens qui viennent, ils disent, bah, moi, si je boucle 2-3 boucles, je serai content.
Ouais.
En sachant que c'est pareil, il y a une particularité dans... au-delà d'essayer d'aller faire les 24 heures, il y a 3 coupes en jeu, dont une au 2e tour, une au 6e tour et une au 10e tour. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, pour faire uniquement les 2 boucles et être premier de la 2e boucle.
Et comment on appelle ça, Fred, l'enduro du Touquet, là.
C'est faire le all shot.
Faire le all shot, voilà, bah, ça correspond à ça, ouais. Le mec, il va bombarder pendant 100 mètres.
Ou à l'époque, au cyclisme, c'était aller faire les primes. Tour, tu vas chercher les primes, donc tu sais que tel tour, il y a une grosse prime, donc tu y vas.
Aventure géniale. Allez, j'imagine gros entraînement aussi en amont pour tout ça, pour faire tout ça.
Mais spécifique quand même avec ce rythme-là. Ça me fait penser à ce que vous faites parfois, les profs de PS, là, à chercher le rythme,
La régularité, maître mot, dis-nous tout, Alex, ouais.
Ah bah c'est ça, hein, tu l'as dit, c'est la régularité. Hein.
Régularité.
Il n'y a pas d'autre mot, quoi, en fait. Hein, c'est...
J'espère que tu as une bonne note en EPS, ouais. Ça mérite.
J'espère. Je me rappelle plus de mes notes d'EPS.
Fred,
ouais,
alors pour la petite histoire, je ne suis pas du tout coureur à la base, j'ai toujours détesté courir. En fait.
tu faisais la prime du 2e tour, toi.
Non, mais en fait, à la base, c'est pas vraiment mon sport, et en fait, je me suis pris de goût à ça, et le trail est une aventure formidable, parce que je trouve qu'on est dans la nature, et je trouve ça génial.
Ouais.
Après, du coup, de faire des boucles comme ça, je trouvais l'idée intéressante, je trouvais le concept marrant, en fait. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer.
T'as raison, Fred.
Ouais, je veux dire là, sur l'expérience de la Française qui est championne du monde, donc elle fait 240 km en 24 heures et elle disait donc en fait le plus dur pour elle c'est les premières heures parce que en fait de courir juste à 10 km/h, à 10 km par heure, c'est terrible.
Oui.
Et psychologiquement c'est terrible
parce
que faut être complètement en dedans parce que bien sûr elle peut courir beaucoup plus vite et ça faut apprendre donc tu as tendance à énormément t'ennuyer en fait. Elle disait que psychologiquement faut passer ce cap là.
Donc, moi, les 10 premières heures, je reste à 15 quand même. Ouais, 15, ouais, je me fixe 15.
Ouais, ouais,
15 mini. Bravo, Alex, bravo. Et tiens, on en profite pour annoncer déjà le dernier Homme debout de Bonchamp qui aura lieu début mi-juin. Mi-juin, si vous voulez
vous
inscrire.
Ça se joue au bar des sports.
Si vous voulez vous inscrire, le concept c'est quasiment le même. C'est sur 5 km, c'est sur 12 heures au lieu de 24 heures, donc peut-être plus accessible et il y a moins de dénivelé. Donc je crois, Alex, que tu seras le favori de l'épreuve.
Oui.
Le favori.
Participant
organisé par le PEPS, évidemment à Bonchamp. Je vous dis mi-juin, on reviendra vers vous pour tout ça. Merci Alex, merci beaucoup pour cette expérience.
Merci à vous, merci pour votre accueil
et à très bientôt.
Au revoir Alex.
Ciao.
Salut.
Merci. On enchaîne avec des choses que l'on a déjà entendues, réentendues, mais c'est pas grave, on est là aussi pour ça. C'est de la Ligue des Champions quand même.
Mercredi il y a
une vraie actualité. Moi ça a mal démarré les mecs hein, parce que moi parce que Brest, pour le coup, j'ai pas regardé souvent tellement j'avais la trouille devant la télé. Là, j'avais pas la trouille. Je me dis, on est déjà qualifié, on va regarder, on va jouer détendu. Bon, c'était un non-match. Donc, c'est pas grave, ça arrive.
Mais
ça
ton regard de supporter, j'étais là, tout va mal, quoi.
Mais
si ça va pas super bien, bah tout va mal.
C'est vrai que c'est un enfer d'être supporter. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on passe dessus. Ils avaient fait le travail avant, c'est très très bien, bravo à eux.
Vivement mercredi, hein.
Bravo à eux.
Pour Brest.
Et ça permet aussi Brest là de rebondir sur le fait qu'on était dans un stade allemand avec une équipe ukrainienne. Que il y a pas d'ambiance, enfin il y a pas vraiment d'ambiance et je suis sûr que moi si Brest perd 1-0 au Roudourou avec la ferveur qu'il y a derrière, ça peut revenir. Et regardez ce qui s'est passé avec Paris, c'était complètement extraordinaire, ils perdent 2-0 et à partir du moment où c'est peut-être Barcola qui marque le 2-1.
Non, c'est Dembélé.
C'est Dembélé, à partir du moment où il y a ce 2-1, ça devient une folie totale dans le stade et tu en viens à te dire de manière peut-être irrationnelle, à partir de maintenant, ils ne peuvent plus perdre parce que tu auras une bronca pendant une demi-heure.
Ouais, mais c'est irrationnel. Non, mais c'est surtout que là, il y avait un enjeu, c'était la survie de Paris, donc fallait qu'ils se donnent à 200%.
Ouais, là je te parle au-delà de ça. Je te parle vraiment d'un truc qui c'est pas une révélation parce que le 12e homme c'est pas vain non plus comme phrase, mais là tu te dis à ce moment-là au but de Dembélé la bronca qui démarre, on va pas perdre quoi.
Ouais, je sais pas, mais après c'était un super match, donc depuis le début, hein, donc c'était totalement immérité d'être mené 2-0, donc c'est une belle soirée.
Ouais,
moi, je suis très content parce que je suis content pour les joueurs, je suis content pour Enrique, je suis content aussi parce que j'étais quasiment le seul à les défendre en début de saison en disant si ça joue pas mal, ils ont pas de réussite mais ça joue pas mal. On lui disait non c'est fini, ils ont plus d'attaquants, c'est plus ce que c'était. Et puis là ils jouent un très très grand d'Europe. C'est un super match collectif. Tout le monde a été au niveau, les recrues. En plus, il n'y a rien de raccro, c'est super. S'ils ont de la réussite, ils peuvent gagner 6-1 ce match. Donc, il y avait tout. Donc, ça fait plaisir. Ça réconcilie vraiment.
Le coach de Manchester l'avoue sans problème.
Ah, bien sûr.
Ça a été quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il racontait après?
Ah, il a dit là, c'était une victoire
mérité pour Paris,
sans problème. Non, là, il y avait pas. On pourrait dire, il n'y avait pas photo, même pour lui, quoi.
Ouais, normal. Donc, gros, évidemment, grosse ambiance, top. Ça rabat un peu les cartes du classement.
Un scénario, on peut revenir sur le scénario. Parce que si c'est un match dont on se souviendra, je pense qu'on s'en souviendra.
Ouais, on va
ce
s'en
match.
Souvenir.
C'est évidemment pour le côté remontada, c'est extraordinaire.
Quel terme galvaudé.
Non, mais c'est le bon terme, parce que je pense que ça va clore justement cette remontada historique de Barcelone, parce que là, c'est vraiment l'effet inverse. Ils sont dos au mur et ils en mettent 4.
Le dernier compte pas, si.
Si, il compte.
Vous parliez de ce mot mythique, je voulais pas vous le dire tout de suite évidemment, mais on va y aller quand même. Qu'est-ce qui s'est passé avec Barcelone une fois de plus, messieurs? C'était Barcelone-Porto. Ça a été 0-2 et 4-2, 4-2 à l'arrivée.
C'est Benfica, Barcelone.
Ah non, c'est pas du tout ça.
5-4.
Ça fait 5-4 pour Barcelone. Barcelone qui était mené 3-1, 4-2,
c'est ça.
Gagne 5-4.
Alors, il y en a un, pour le coup, qui n'a pas fini de l'entendre, le mot remontada, parce qu'il y a un joueur qui a vécu les deux, lui. Il l'a vécu avec Paris, il vient de le vivre avec Lisbonne, et c'est évidemment.
Ah oui, Di Maria.
C'est Di Maria. Le cauchemar.
Après, c'est double cauchemar, parce que c'est la même chose, là. Il y a quand même des grosses erreurs d'arbitrage sur ce match.
C'est cruel. Mais voilà, c'est une petite parenthèse. Le mec, à mon avis, ça doit être quand même assez dur à vivre. Mais c'est du lourd.
Pour le supporter du Barça, ça doit être une très très belle soirée, plein d'émotions, c'est sûr.
Extraordinaire, évidemment. Messieurs, on avait qui? On avait Monaco. Monaco qui fait le travail. Je sais même pas, parce que Monaco, c'est comme son public, quoi. C'est-à-dire que ça avance. Je vous vois avec une petite moule, ils font le travail. Les mecs, c'est quand même du. Non, on n'y croit pas, mais c'est du lourd. C'est du lourd. Les gars, ils sont.
Ils
sont classés combien maintenant? Ils doivent être dans les.
Ils sont dans les 12.
Ils sont dans les 12. Mais c'est aussi parce que l'affiche, ça fait pas rêver. Aston Villa, c'est pas.
Ça reste un nom.
Pour moi, je crois que c'est un groupe de rock français, mais.
Tu dénigres tout.
Non, je dénigre pas, mais c'est pas pareil. Je veux dire, le PSG, Manchester City, ça n'a rien à voir. C'est une toute autre dimension. On nous a encensé Guardiola en disant que c'était le surhomme, etc. Et puis il a trouvé son maître, qui était son prédécesseur au Barça. Et qu'est-ce que ça devait être bon pour Enrique d'ailleurs. Et franchement, on a vu une super équipe. On a vu des joueurs, on a vu un João Neves au milieu de terrain.
Une révélation quand même.
Depuis l'année, il était bon, mais là en plus il marque.
Magnifique.
Il est tout bon.
Tout a été bien. Les remplaçants, les gars, tu fais rentrer les joueurs, tu t'aperçois pas la différence. Ces gars rentrent, sont top. C'est franchement, même Donnarumma a fait des sorties. Ce qui est bien là, sur un match comme ça, c'est que c'est un collectif qui a gagné. Tu peux pas dire, tiens, c'est lui qui a été plus fort que lui. Là, toute l'équipe a bien joué. Et en fait, quand tu débutes le football et qu'on t'apprend le football, on te dit c'est un sport collectif, on joue à 11, etc. Et là, tu te dis c'est un super exploit de Ronaldo, de Messi ou de
Alors c'est mieux quand même quand t'as un Barcola qui peut démarrer à 70 mètres du but adverse pour faire son Axel.
Mais il crève pas l'écran. Il fait son match, mais il crève pas l'écran. Dembélé fait son match, les milieux de terrain font leur match.
On est d'accord.
Et c'est équilibré. Et enfin, c'est ça le football. Parce que là, tu ressors pas un joueur. Tu vas pas dire c'est lui qui a fait gagner. C'est l'équipe. Et ça, et c'est génial, quoi.
Et peut-être, c'est ça qui est fait. Le plus beau but de Paris, c'est celui qui n'a pas été validé. C'est le
mais, premier, il est fabuleux.
Fabuleux. Ouais,
l'action, ouais. L'action. Mais ouais. C'est ça aussi. Alors, là, tu penses à Platini qui était contre le VAR. Mais ouais. Là, tu te dis, le gars, il a une demi-rotule d'avance.
Ah, une rotule.
Même pas, ouais, une demi-rotule. Et tu refuses un but comme ça, alors que c'est un but à montrer dans toutes les écoles de foot.
Jolie phrase.
Franchement, quoi.
Messieurs, on en profite pour jouer tout de suite. Alors, j'ai cherché des joueurs qui ont joué à PSG et Brest, les deux, j'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé par contre
PSG et Brest.
Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas eu Ginola. La liste entière. Là. Il aurait fallu que je fasse des recherches personnelles.
Le Gouen.
Bon, alors j'ai trouvé pour PSG et Monaco.
Colletière.
Deux clubs, deux clubs encore en lice. Alors je veux du gros nom. Messieurs, Lionel, c'est toi qui démarres. C'est PSG, Monaco. C'est que des.
Mbappé.
Mbappé, ouais, c'est bon, bien. Je te valide ça, ouais.
Alors moi, pour les anciens, le petit prince, Daniel Bravo.
Ouais, Daniel Bravo,
j'adore.
C'est bien, ça, c'est dedans.
Et moi, c'est stop.
Non.
Ah bon, d'accord.
Un homme qu'on surnommait Mister. Mister qui finit président.
Mister George. George Weah.
Ah oui.
Oh bah quand même.
C'est une lointaine histoire, ça.
On a un champion du monde français, 98. On a
petit
que j'ai appelé le Snake.
Non, pas petit.
Ah, Djorkaeff.
Djorkaeff, évidemment. Vous m'avez dit un petit, ouais. Un petit,
ouais,
très vif.
Petit aussi.
Vous l'avez dit déjà, peut-être. Non, un petit très vif qui a fait du Barcelone aussi.
Ah, bien sûr, Ludovic Juli.
Je suis Ludovic
Juli. Il a fait tout
Attention,
ça.
J'ai un entraîneur du Stade Lavallois.
Ah, bah, Claude Leroy.
Non,
je n'y connais.
Un entraîneur du Stade Lavallois. Alors, entraîneur, il n'a pas fait long feu. Hein. Mais la classe à l'italienne.
Ah oui.
Ah, Marco Simone.
Marco Simone qui a fait les deux, évidemment. Et peut-être un petit dernier. Il a son émission également sur RMC.
Jérôme Rotten.
GG Rotten. Ah, bravo, oui. Bravo, messieurs. Très, très bon.
Tu pouvais dire bravo Fred, hein, mais bon.
Mais t'as raison que c'est quand même des sacrés joueurs, tout ça. Hein.
Ouais, c'est que
là, du, t'as
coup,
cité du
c'est
gros,
du lourd. Ouais. C'est du lourd. Messieurs, on vous aide à 10 contre 11. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Parce que c'est arrivé à Lille, là.
Ouais.
C'est arrivé à l'Atlético contre... C'était qui, Fred? C'était du lourd en face.
C'était du lourd.
Bref, c'est arrivé...
Leverkusen,
ouais. Monstre. Voilà. Donc... Vous faites quoi? Vous avez l'idée classique, bon, on met tout le monde dans le but.
Non, moi je joue normalement.
Ou on joue?
On joue. Parce qu'on s'aperçoit, historiquement, il y a beaucoup d'équipes qui jouent quasiment mieux à 10 qu'à 11.
Ouais.
Donc, je joue. Alors, tout dépend qui est sorti, si c'est le gardien qui est sorti, enfin, voilà. Mais ça compte aussi, hein. Ça compte aussi dans la structure.
Je garde ma structure de jeu sans le...
mais autrement, voilà, non, je crois qu'il faut jouer. Et d'ailleurs, l'Atlético l'a prouvé parce qu'ils ont gagné le match. Hein.
C'est juste extraordinaire. Lille...
Lille était pas loin de recoller
Lille,
aussi.
C'est dingue. Ouais. Mais alors... Je vais inverser la problématique parce que si on va se poser évidemment la question
à 12, on joue pas à 12.
pour la première question qu'on se pose tous, c'est comment vous faites à 10 contre 11? Mais si on retourne le bordel, comment on fait à 11 contre 10? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on attaque à tout va? Est-ce qu'on rajoute des attaquants?
Je pense que le coach, il doit avoir beaucoup d'importance pour essayer de rapidement voir quelle est la structure qu'ils vont faire à 10. Pour s'adapter et pour dominer, quoi.
Ouais.
Je pense que là, le coach doit être fondamental là.
Bah, la logique, c'était 11 contre 10, c'est de faire tourner le ballon, il faut les faire courir.
Ouais, mais oui, d'accord.
Mais la problématique, c'est est-ce que tu as une équipe qui est capable de faire tourner le ballon? Et si c'est pas le cas, bah, en fait, ils déjouent les gars parce qu'ils osent plus. Donc ça dépend vraiment de la structure que tu as initialement. Parce que les équipes qui jouent très regroupées et qui balancent devant sur leurs attaquants. Bah, si elles se retrouvent à 11 contre 10, tu leur demandes de faire tourner le ballon, ils savent pas faire.
Ouais, c'est vrai.
Donc en fait, ils ont plutôt tendance à déjouer. Donc je pense qu'il faut rester dans la structure que tu avais initialement, sinon les gars commencent à se poser trop de questions et ça permet pas une fluidité dans le jeu, quoi.
Ah ouais, tu vois ça comme ça, toi.
Ah ouais, clairement.
Ouais. Parce que l'idée qu'ils ont tous, c'est bon, allez, on va se ruer à l'attaque, machin, mais du coup, tu peux prendre du contre, tu peux prendre du machin, et c'est ce qui s'est passé avec Lille, et puis il y avait rien à dire, quoi. Il y avait rien à dire. Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est un nouveau football, quoi. C'est un nouveau football, c'est un nouveau démarrage. Et rappelez-vous, messieurs, alors là, je parle aux historiques, bien sûr, 98, France-Croatie, on perd De Sailly ou on perd Blanc en demi-finale.
Et là, vous voyez des champs qui, bah, qui retracent toute l'équipe, quoi. Ce qui dit, bon, bah, maintenant, toi, tu vas aller là, et ainsi de suite. Et il refait le coup en finale. C'est du coup, c'est qui on perd en finale? On en perd un aussi juste à la De Sailly.
Ouais, Marcel.
De Sailly qu'on perd en finale. Et là, vous voyez le capitaine, quoi. Là, vous voyez le capitaine qui dit tout de suite, bon, bah, maintenant, ok, toi, tu décroches, toi, tu reviens.
Ouais, mais tu vois, d'un autre côté, là, tu cites des joueurs qu'on perd. On perd un stopper ou, enfin, deux arrières centraux à chaque fois. Ouais. C'est pas comme si tu perdais ton disque et la plaque tournante du jeu où là toc ça peut s'arrêter.
Ouais.
Là si t'as des joueurs intelligents et c'était le cas là, l'équipe que tu cites, bah ils arrivent à compenser. À la fois c'est les grands joueurs, les joueurs intelligents, ouais. Donc c'est des choses qui peuvent se gérer quoi.
Ouais. Mais je donc oui c'est ce que tu dis c'est voir ce type là sur le terrain bon c'est Didier Deschamps évidemment devenu monstre des entraîneurs mais c'est ce type qui est capable en plein match de se dire ok donc toi Coco maintenant tu redescends là tu fais ceci tu... moi je trouve ça formidable de clairvoyance et il faut que bon faut un leadership évidemment mais il avait le brassard donc il pouvait se permettre mais ça suffit pas quoi faut être capable d'analyser le jeu à cette vitesse là bravo à lui. C'est jamais simple. Tu veux un dernier petit jeu
Un petit mot sur mercredi oui, prochain, quoi. Ça va être la folie. J'aurais voulu avoir vos avis là-dessus. Donc, tous les matchs en même temps, c'est ça?
Ah oui.
Tous les matchs en même temps.
Tous les matchs.
J'ai envie de dire, si t'as pas la petite bande à côté pour te dire qu'est-ce qui se passe, qui est devenu, qui est revenu dans le 24, qui
dingue.
Est parti des 12, va falloir vraiment suivre tout ça.
Dingue.
Là, ça va être un de la folie.
But Lionel, je te coupe, but à Guingamp.
Il faut absolument voir la petite, la petite roulette génial. Là.
Alors, en fait, pas tellement. Parce qu'il n'y a pas tellement de clubs concernés pour le passage de 10 points à 13. Ils sont, c'est pas si énorme que ça en fait.
Ah, il y aura de l'ambiance.
Parce qu'il y a
ça
déjà pas mal d'équipes où c'est déjà géré. Non, là. Enfin, ouais.
Allez, donc, on finit. Je vous donne un mot. Vous me donnez une équipe ou un événement ou quelque chose. Je vous dis jeu demain.
Bah, jeu de vilain, mais.
Non, jeu de. Une équipe, c'est du rugby, c'est du...
Bah, Toulouse.
Jeu de Toulousain, jeu de main, jeu de Toulousain. Vous connaissez pas le...
Non.
Vous connaissez pas l'adage, bon, c'est dommage. Je vous donne le Catenaccio, ça vous fait penser, hein.
Bah, c'est l'Italie,
c'est la défense italienne. C'est le Catenaccio qui veut dire...
Le cadenas.
Le cadenas, tout à fait. Je suis le tiki-taka.
Ah bah ça c'est le football sud-américain, les passes courtes.
Voilà, bah c'est Barcelone surtout.
Oui, qui est remis, mais historiquement c'est...
Bravo professeur.
Le foot total, football total.
Ah bah c'est les Pays-Bas ça, c'est l'Ajax.
Bon bah Lionel
non mais j'écoute moi
putain,
je
mais
suis...
c'est quand même pas dur quand c'est des années en plus bordel. Putain je te regarde à chaque fois. Bon la Dream Team, c'est quoi ça la Dream Team?
C'était les États-Unis basket
ouais,
92.
C'est 92 ça, bien. Lionel s'il te plaît, qui c'est les plus forts?
Évidemment c'est les Verts.
Ouais très bien. Le kick and rush.
Un kick and rush et football anglais, ça.
Football anglais, ça veut dire quoi à peu près? Ça veut dire quoi?
C'est je mets une grande balle devant et je cours.
Voilà, c'est à peu près ça. Je vous fais pas l'affront, remontada. Quel match ça vous fait penser,
ouais,
évidemment.
Oui,
je suis le derby.
Ah bah, le derby.
Je suis le derby. Mondial.
Ah ouais.
On avait fait une émission sur les derbies, mais tiens, il y en a deux au monde des derbies.
Oui, bah, Real. Bah non, Derby. Pardon.
Derby.
Alors, c'est du londonien.
Oh, vous me décevez.
Ou du Manchester.
Les... Mais non, mais ni l'un ni l'autre.
Non, c'est. Normalement, c'est argentin. C'est argentin, c'est.
C'est
la Bombonera, normalement.
Ouais,
donc, voilà.
C'est donc.
C'est River Plate contre.
L'autre. D'accord.
Ouais.
voilà. Et il y avait aussi celui de Glasgow, les mecs. Putain,
ouais,
c'est
Celtic contre.
C'est quand même mythique, ouais. Évidemment. Je suis un corner à la.
Rémoise.
À la Rémoise.
Oui,
je vais être obligé de donner la victoire à Fred.
Ah bah oui, de justesse.
C'est kiff, hein, je
Donne-moi
pense.
Donne-moi au moins deux personnes quand même du carré magique et Fred y complétera.
Ah bah ouais. Bah le plus grand.
Oh, Platini.
Bah ouais, voilà.
Platini,
d'accord.
Le plus petit. Mais qu'est-ce que tu regardes? Il y a rien à regarder.
Ouais,
bon, vas-y, finis.
Bah,
finis,
j'irai, c'est Fernandez, Tigana.
Oh la vache, bah ouais quand même.
Alors on aurait pu rajouter Gengini hein, aussi, c'était
Gengini,
limité, ouais.
Ouais. Les pépés flingueurs, donne-moi les noms des pépés flingueurs quand même.
Pouget Pires,
Metz. Évidemment, non, il en reste deux,
votre
Lionel
culture, les gars.
Il reste deux, il reste... Faire une dicamène, qu'est-ce que...
Oh là là, c'est... Ah, le match est gagné, mais tu dis tiens, je vais la passer comme adversaire pour qu'il revienne.
Ah, et bingo. Et il me reste Chris Waddle.
Ah bah le râteau, forcément, le passement de jambe et puis le radeau.
Ah non, la Chris Waddle, pour moi c'est pas ça moi.
Ah, c'est, bah, c'est la coupe mulet autrement. Mais
ouais, non, la Chris Waddle c'est contre le Milan AC où il prend trauma crânien et oui, il se souvient pas du tout de la fin de match et il est exceptionnel pendant un quart d'heure. Et mon dernier, faire une Noah, Lionel s'il te plaît.
Ah bah il y en a plein. Noah, il en a tellement
j'ai
fait.
J'ai besoin d'un spécialiste.
Noah, c'est la dernière, tu vas la gagner celle-là. C'est le coup Noah, c'est quoi le coup
c'est
Noah?
C'est le coup entre les jambes.
Le coup entre les jambes, oui. Évidemment. Ouais les gars, ouais. T'es nul Lionel, t'es nul.
D'ailleurs je m'en vais.
Mais Noah, on pouvait dire aussi le mec qui se crame les pattes en démarrant son barbecue. Il avait pas mal.
Mais le coup entre les jambes. Toute ma jeunesse ça a été ça. Je vais faire le coup Noah. C'était ça le truc. Messieurs, bon à part un, vous avez été très bon, très bon. Enfin sur deux, ça fait énorme, tu me diras, mais on finit dans la bonne humeur, la bonne ambiance. C'était formidable. On se dit à dans 15 jours. Fred, est-ce que tu seras là à l'heure, s'il te plaît? Là, parce que comme là, tes histoires de bouchons, moi j'y crois plus.
Ouais, mais c'est compliqué le dimanche sur la vanne.
Ouais, c'est compliqué, t'as bien raison. Ouais. Allez, salut mon ami, salut Lionel, et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, merci Jérémy pour la technique. Une fois de plus, ça nous permet d'avoir des gens au téléphone et d'avoir une bien meilleure. Écoute, merci à tous, merci messieurs et dames de nous écouter et à dans 15 jours.